Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Station Ozone pour cette conférence en partenariat avec la librairie Mola, le café historique et le souvenir napoléonien que je représente ce soir. Ce soir donc, nous recevons deux invités, en l'occurrence Pierre Branda, donc le conférencier de ce soir, qui sera modéré ou interrogé par Xavier Mauduit et espérons que vous passerez un très bon moment en notre compagnie.
Bonsoir à tous, vous nous entendez bien? C'est formidable cette technique avec les micros des deux côtés, j'adore. Bonsoir à tous, merci d'être là, c'est formidable. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Pierre Branda devait venir parler de la saga des Bonaparte, vous l'avez là juste devant, et puis moi on m'a dit, bah tiens, vu que tu connais bien Pierre, tu viendrais pas? Pierre m'a dit, bah, on boira des coups, quoi. Donc je suis venu, je suis juste passé là comme ça. Donc vous expliquez vite fait qui est Pierre, mais je pense que beaucoup ici le connaissent. Je regardais la quatrième de couverture, voir qui tu es, donc responsable du patrimoine et des finances de la Fondation Napoléon. Le Niçois, Pierre Branda, donc on est tout de suite dans le sud, ça sent la salade, c'est formidable. Pierre Branda s'est fait connaître par divers ouvrages relatifs au Premier Empire, divers ouvrages, non, parce que Napoléon et l'argent, entre autres, et donc oui, de nombreuses interventions télévisées, ça arrive au meilleur, ça c'est sûr, et sa récente biographie de Joséphine, publiée chez Perrin, très bonne maison d'édition Perrin, bien sûr, a été particulièrement remarquée. Effectivement, elle était bien remarquée, cette bonne Joséphine, mais ce qui est remarqué aujourd'hui plus que tout, c'est la saga des Bonaparte, qui marche bien, ce bouquin, hein. Il marche très 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 bien, hein. On est fiers. Non, moi je vais vous dire, Pierre, c'est pas, bon là je vous lis le truc, mais c'est pas ça. Moi j'ai commencé à travailler, je travaillais sur la maison de l'empereur Napoléon III. La maison, c'est l'institution qui gère la vie du souverain, si vous voulez. Je faisais ma thèse là-dessus, et on peut pas, quand on travaille sur l'empire, le premier ou le second, ne pas aller à la Fondation Napoléon. Donc je vais à la Fondation Napoléon, je rencontre son directeur Thierry Lenz, je lui explique mon projet d'étude, et Thierry me dit, il y a un type, vous allez voir, il est formidable, il s'appelle Pierre Branda, qui travaille sur la maison de Napoléon Ier. Ah, dingue, on bosse sur le même sujet, donc on se rend compte, nous étions jeunes, nous étions fous, tu avais les cheveux à peu près jusqu'aux épaules, c'était en 2004-2005, la barbe aussi, et moi pareil, j'avais des dreadlocks, et donc je rencontre Pierre, et on discute de la maison de Napoléon Ier, moi la maison de Napoléon III. Je découvre plein de choses, une vraie discussion intelligente, c'était formidable, mais surtout quelque chose d'humain. Et quand on fait des études, quand on est un jeune étudiant et qu'on approche comme ça dans ce monde gigantesque, celui des archives, on a très peur, on ne sait pas où aller. Et ce sont des rencontres qui font que l'on se dit, je vais réussir à faire mon sujet. Et voilà, cette rencontre avec Pierre, elle a été décisive, c'était formidable et ça rassure en fait, parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler. Et quand on peut travailler dans des bonnes conditions en rencontrant des gens sympas, c'est super important. Donc depuis, on s'entend bien et tout. Et en plus, on est co-commissaire d'une exposition qui a lieu actuellement à Rueil-Malmaison. Nous sommes co-commissaires et ça nous éclate. Donc moi plutôt San Antonio, toi plutôt Maigret.
Ou Colombo.
Ou Colombo aussi, c'est pas mal. Donc dis, alors Pierre, juste pourquoi d'un seul coup cet intérêt sur les Bonaparte et pourquoi pas les Napoléons? Il y a eu plein de noms, hein, les Napoléonides, les machins. Pourquoi Bonaparte en avant avec ce projet-là?
Oui, bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, je devais te présenter un petit peu, mais on ne
présente
plus.
Pas, c'est toi, là. C'est toi.
Tu fais une voix à la radio, maintenant, ils ont le son et l'image. Donc, tous les soirs, aux 28 minutes, évidemment. Les Bonaparte, oui, parce que, pourquoi pas, les Napoléons, on a toujours, vous savez, il y a cette, on va dire, cette séparation entre Bonaparte et Napoléon. Vous savez peut-être que dans le dictionnaire Larousse, il faisait mourir le général Bonaparte au coup d'état de Brumaire pour faire naître ensuite l'empereur Napoléon, comme si il y avait des Bonaparte républicains et des Napoléon empereurs. C'est pour ça ce qui est plus vrai. Mais j'ai jamais trop cru à cette séparation un peu artificielle. C'est la même. C'est tout de même le même personnage et les mêmes personnages. Les Bonaparte, si vous voulez, c'est un champ plus vaste parce qu'ils n'ont pas tous été. Il y a des Bonaparte qui sont devenus des Napoléons, mais pas tous. Donc, si on voulait rendre compte de l'immense, enfin de la variété de ces personnages et des chemins assez singuliers que certains ont pris, il fallait élargir le propos au Bonaparte, à ce qui est tout de même leur patronyme d'origine, bon, francisé à partir de 95, hein, puisque vous savez que c'était Buonaparte, et hein, on a dit que c'était une famille qui avait reçu la bonne part, la Buonaparte, hein, donc, mais ça, les sources divergent. Enfin, toujours est-il que les Bonaparte, c'est plus divers, plus à mon sens plus intéressant, et on sort de seulement de l'aspect dynastique, surtout pour rencontrer, on va j'espère en témoigner, des véritables personnages de roman.
Ouais, parce que bon, je l'ai lu le bouquin, donc là-dessus je vois où tu veux en venir. Moi, ce qui m'avait surpris, étonné et rassuré, en fait, c'est qu'il est toujours possible d'écrire de l'histoire avec du sourire. Et dès l'avant-propos, je vous lis le truc, parce que vous savez, quand vous prenez un bouquin comme ça, vous vous dites, c'est une aventure que je vais vivre. Donc l'aventure, à quoi elle va ressembler? Et Pierre, il écrit ça, il écrit « Quand le grand Frédéric Masson, donc gros historien du Premier Empire, Frédéric Masson, hein, quand le grand Frédéric Masson écrivit l'histoire des 8 premiers Bonaparte, il appela sa monumentale série, il y a 13 volumes quand même, hein, faut se les taper, Napoléon et sa famille. » Bon, lui et les autres, en somme. Et Pierre y rajoute, à la manière de Walt Disney, l'œuvre du maître aurait même pu s'intituler Napoléon et les 7 nains. Oui, tant les autres apparaissent mineurs. Alors, quel Bonaparte, en fait, t'as choisi, toi? Parce que c'est vrai qu'il n'y en a qu'un. Il y a Napoléon, souvent dans l'esprit des gens. Il y a un nom qui domine tout le reste de la famille, c'est Napoléon. Alors, c'est lesquels que...
Napoléon Ier, j'ai choisi tous ceux qui sont nés Bonaparte. Ouais. En fait, hélas, vous n'entendrez pas parler de génie un petit peu, ni de Joséphine, Marie-Louise ou d'autres, mais ceux qui sont nés Bonaparte, pour avoir comme ça, ils sont déjà 17, hein, donc pour un tome 2, peut-être, on élargira encore, hein, ça nous donnera le plaisir de revenir. Mais c'est vrai que ce sont d'abord les Bonaparte, mais nés Bonaparte, avec le premier d'entre eux, on commence au père de Napoléon, évidemment. Alors, sur le sujet, on a aussi un petit...
Oh, la technique, c'est voilà. Génial. Hein. Pierre, c'est l'aventure technologique. Wow.
Et voilà. Entre, oui, parce que les Bonaparte, si vous voulez, ils se placent, ils peuplent un peu l'histoire de France entre Louis XVI, le dernier monarque absolu, on va dire, pour simplifier, et le général de Gaulle, le dernier président absolu. Enfin, peut-être l'avant-dernier, on ne sait pas. Hein. On n'a pas encore fini avec l'actuel. Donc, l'histoire, on est dans l'actualité, pas dans l'histoire. Et cette saga commence par une rencontre, celle de Louis XVI avec Charles Bonaparte, le père de Napoléon, le 10 mars 1779, car Charles Bonaparte est à ce moment-là député noble de la Corse, et tous les ans, ce qu'on appelait alors les pays d'État, devaient présenter leur requête au roi, en gros demander de l'argent. Ça, ce qui d'ailleurs ne se produit presque plus, hein, aujourd'hui, mais c'est bien du passé. Effectivement, de présenter leur requête au roi, il y avait une présentation officielle. Alors, très certainement, Louis XVI n'a pas remarqué particulièrement ce jour-là Charles Bonaparte. Lui, par contre, ça a compté un peu plus, mais cette rencontre anecdotique tout de même, enfin, a quand même un côté, enfin, du point de vue de la destinée, assez intéressant, parce que je vois ça comme un passage de témoin, en fait, entre la dynastie des Bourbons et la future Annette, celle des Bonaparte. On y reviendra. Et elle se clôture par une autre rencontre, celle du général de Gaulle avec le prince Napoléon. Je reviens, on précisera tout à l'heure de qui il s'agit, mais enfin, c'est un descendant du dernier frère de Napoléon, Jérôme. Le prince Louis a été un grand résistant. Le général de Gaulle l'a à ce moment-là rencontré le 29 octobre 1944. Deux noms face à face. Et là, c'est comme un autre passage de témoin. C'est que les Bonaparte disparaissent de l'histoire en quelque sorte pour entrer. Disparaissent de l'actualité plutôt, et pour entrer dans l'histoire. Et c'est le général de Gaulle, bon, qui. Comme vous savez, n'a pas attendu 1944, mais j'ai vu un autre passage de témoin entre ces deux grands noms, entre les Bonaparte, enfin Bonaparte et De Gaulle. Donc on a, si vous voulez, aussi deux bornes historiques 1779 et finalement 1944, même si nous y reviendrons, la famille Bonaparte continue aujourd'hui d'exister, bien entendu. Mais voilà leur période historique principale. En grosso modo, tout de même, majoritairement le 19e siècle, qu'ils peuplent pour lequel on peut dire, en quelque sorte, même pour la France, que le 19e siècle est en quelque sorte le siècle des Bonaparte.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a, dans cette période-là que tu identifies, ils ont peuplé l'ensemble de l'histoire de France, et peut-être même un peu plus de France, oui, de France d'ailleurs.
L'histoire européenne avec... Ouais. Parce que finalement, après la Révolution française, bien entendu, les Bonaparte vont en Europe remplacer tous les souverains et notamment quasiment tous les Bourbons en France. Bon, Louis XVI disparaît par cause de Napoléon, vous le savez, mais tout de même, le souverain qui lui succède après l'épisode révolutionnaire, ben, c'est Napoléon Ier, je ne vous l'apprends pas. Vous avez l'Espagne, ou là, plus directement, sous le Premier Empire, Charles IV d'Espagne, lui, chute aussi et est remplacé par le frère aîné de Napoléon, Joseph. Vous avez aussi en Toscane, alors c'est un Habsbourg, mais sa mère était Bourbon, Ferdinand III, qui lui aussi est remplacé, alors ce moment-là, par une Bonaparte qui s'appelle Élisa. Et enfin aussi sur le trône de Naples, le Bourbon Ferdinand, lui aussi chute et est remplacé d'abord par Joseph. Et ensuite par Caroline. Donc vous voyez, là, dans cette espèce de chute des Bourbons, le tableau de famille est entièrement recomposé. Nous n'avons plus sur l'image que des Bonaparte, alors que les Bourbons avaient, si je puis dire, effectivement, été quand même prégnants sur toute l'Europe. Eh bien, fini les Bourbons, exit, place aux Bonaparte.
Ouais. Donc, au-delà d'avoir remarqué que depuis le générique de Star Wars, il n'y a pas eu d'avancée d'effets spéciaux aussi forte que
ah oui.
Je pense. Hein.
Je sais. En plus, je sais. Les Napoléoniens aiment bien ce que je refasse ça. Oui, que tous les Bourbons chutent et que je vous refais en accéléré. Hein, regardez, c'est encore mieux. Hein, je veux dire, hop, terminé avec et vive les Bonaparte. Donc voilà.
On est obligé de fréquenter effectivement les gens du souvenir napoléonien, salut Gonzague, voilà. Les gens des amis de Napoléon III. Non, ça marche bien. Moi, je vis un truc à chaque fois, c'est-à-dire que jusqu'alors, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, le premier président de la République française, élu en décembre 1848, il était le plus jeune président de la République. Il a 40 ans quand il est élu et tout, en 1848. Et là, manque de bol, Macron. Donc, drame absolu, parce que tous, ils sont verts. Nous, on avait le plus jeune et on est battu. Alors, ils ont trouvé une parade. C'est que maintenant, quand je dis, c'est plus le plus jeune, il y a 18 qui se lèvent en disant « Oui, mais Louis-Napoléon Bonaparte a été élu au premier tour. » Okay. C'est bon, ça les rassure.
D'ailleurs, il y a un score supérieur que Macron en second.
Il a été élu à 74% en 1848. Donc, comme quoi...
Hein, oui.
On se raccroche à des trucs, quoi.
Un score à la Poutine, mais plus régulier. Bon, passons, je ne veux pas fâcher les amis.
En tout cas, il restera toujours le premier président élu au suffrage universel masculin. Bon, ils viennent d'où, ces gens-là?
Alors,
ces Bonaparte-là.
Alors, évidemment, on va reconnaître l'île de Beauté et Ajaccio, parce qu'une question qui revient dans l'île et qui est revenue d'ailleurs dans l'historiographie, les Bonaparte sont-ils corses ? Il y a pas mal de débats sur qui peut être corse, etc. Aujourd'hui, c'est un débat complètement absent. Hein. C'est vrai qu'on parle plus trop de la Corse et de son autonomie, tout ça. Non. Vous savez très bien que, au contraire, le débat est très actuel. Les Bonaparte arrivent en Corse au 15e siècle. Et ils vont rester à Ajaccio pendant 3 siècles, ne pas en sortir de cette cité.
De Gênes, quoi.
Ils viennent, oui, de Gênes, d'Italie, de Toscane. Ce sont effectivement ce qu'on pourrait dire des Corses génois. Parce que la Corse, il est vrai que ce n'est pas une nation, finalement, de maritime ou de pêcheurs. Les Corses sont avant tout des montagnards. La Corse est une montagne avant d'être des côtes. Donc, les Corses étaient plutôt, finalement, centrés vers l'intérieur. Et ensuite, au moment de l'arrivée des Génois, des Italiens, pour simplifier, ils vont s'installer sur tout le pourtour de l'île et créer des cités, dont Ajaccio, hein, qui crée une date qui a marqué l'histoire, 1492, hein, mais pour d'autres raisons. Mais cette cité, comme Calvi, comme Bastia, reste une cité, on va dire, réservée aux Corses génois, et dans laquelle les Bonaparte prennent de l'importance et seront toujours, d'ailleurs, des potentats locaux assez affirmés. Ils feront partie notamment du Conseil des Anciens, et donc une famille importante, mais pas, une famille assez nombreuse, mais qui parfois doit s'entasser dans 50 à 60 mètres carrés. N'imaginons pas qu'ils sont tout de même très riches. Alors, voilà nos Bonaparte avec celui qu'on oublie toujours, c'est pour ça que je l'ai appelé l'absent, c'est le père de Napoléon.
Charles,
car il disparaît à l'âge de 39 ans. C'était un petit peu comme à la mode des Indiens, non pas le dernier des Mohicans, mais le dernier des Bonaparte. Parce que à la génération précédente, il y avait eu 3 fils, mais le seul qui avait eu, enfin, il avait eu 2 fils, mais dont un seul qui a survécu, c'est Charles. Les 3 frères Bonaparte, finalement, tous leurs espoirs reposaient sur Charles. Si Charles n'avait pas été, et puis dire, le géniteur que l'on connaît, eh bien, nous ne serions pas là ce soir, ou pour d'autres raisons, nous serions là, mais pas pour les Bonaparte. Ça, c'est certain. Charles Bonaparte, qui épouse Laetitia, Madame Mère, hein, pour vous, Caussadour, et enfin l'économe, la prudente Madame Mère, mais tout de même, qui va donner naissance à 8 enfants viables, Joseph, Napoléon, Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline, et enfin Jérôme. Et il y en a 6 autres qui ont disparu, morts-nés ou en bas âge, parce que, et donc vous aurez bien vite fait le calcul, Laetitia est tombée 14 fois enceinte.
Pas mal.
Donc, une vraie fabrique d'aiglons à elle toute seule. Hein. C'est pour ça qu'ils ont tous régné. Bon, s'ils avaient vécu, alors là, c'était le monde qui était envahi par les Bonaparte. Hein, parce que je ne sais pas où Napoléon les aurait tous placés s'ils avaient été 14. Hein. Donc, c'est difficile. Mais enfin, c'est pour vous dire que, alors que les Bonaparte étaient plutôt, avec le dernier d'entre eux, Charles, comme ça, on va dire, commençaient à décliner, eh bien, c'est lui qui donne un souffle nouveau à la fois, évidemment, à travers sa descendance, mais aussi par son ambition, parce que après avoir fait le coup de feu avec Paoli, eh bien, il va remarquablement s'insérer dans la monarchie française, au point que les Bonaparte, on l'oublie souvent, la famille Bonaparte sera la 3e famille anoblie par Louis XV en Corse, qui tient quand même compte. Et qui a suscité quelques jalousies, évidemment, quelques médisances aussi. Si je puis dire, déjà à cette époque-là, au XVIIIe siècle, les Corses étaient déjà assez susceptibles, si vous voulez. Donc, ce qui a créé beaucoup, on ne pourra pas y revenir, j'y reviens dans le livre, mais on a beaucoup accusé Laetitia d'infidélité, etc. Certains enfants dont Napoléon ne serait pas de Charles. Enfin bref, tout ça est un peu fumeux et surtout entretenu par des ennemis directs de Charles, car Charles s'était allié au comte de Marbeuf, qui était le gouverneur militaire de l'île. Et ce protecteur, c'est lui qui va faire en sorte que Joseph, Napoléon, Lucien, mais aussi Elisa puissent étudier sur le continent. Il va être anobli grâce à ça. Il va devenir député de la Corse grâce à lui. D'ailleurs, je veux dire, son parcours est exemplaire. Il n'a même pas 30 ans. Hein. Et donc, il propulse les Bonaparte vers la France de manière assez éclatante et de manière à souligner et à remarquer. Et on l'a un petit peu... C'est un peu la faute à Napoléon aussi, hein, qui a voulu, si je puis dire, naître tout seul. Hein, ne pas avoir de géniteur, forcément. Et donc, du coup, il a été relégué, alors que, bon, c'est quand même lui qui en trouve une porte, hein, pour les Bonaparte, qui finalement ne se refermera jamais.
Oui, il est essentiel, Charles, effectivement. Et d'ailleurs, quand on parle des Corses, bon, ce qui m'a toujours amusé, c'est comment la famille Bonaparte se fait chasser de Corse sous la Révolution en 1793. Mais des vendettas, quoi, des trucs de malades, ils se font chasser. Et quelques années plus tard, quand le général Bonaparte revient d'Égypte après la campagne, il est déjà auréolé de gloire, il s'arrête en Corse, et là, il a cette phrase terrible, il me pleut des cousins. Parce que eux qui avaient été chassés juste quelques années plus tôt, mais à coup de caillasse, quoi, cassez-vous, ils se barrent à Toulon. quelques années plus tard, ah, formidable, revenez et tout. Mais c'est vrai que quand on voit la famille, là, il y a 8 gamins, tous des destins exceptionnels. Et donc, au milieu de tout ça, OK, plein de destins exceptionnels, des descendants, des Bonaparte, mais il y en a quand même un qui domine, c'est Napoléon. Donc, comment on fait pour survivre avec un gros licorne au-dessus de la tête, quoi ?
Alors, hélas, ils disparaissent, ces 6-là. Mais Napoléon Ier, que effectivement j'appelle le totem pour cette famille, car un petit peu évidemment à la mode des tribus, son totem est immense pour cette famille. Quelqu'un, on va dire deux mots, vous connaissez évidemment son parcours, mais ce qui est frappant pour lui, c'est que tu parlais tout à l'heure, enfin tout de suite, de l'expulsion des Bonaparte de Corse, mais finalement, moins il a été Bonaparte, plus il va devenir Napoléon. La première, c'est pas moi qui le dis, mais la première chance de sa vie, c'est lui qui l'affirme à Sainte-Hélène, c'est la mort de son père. Il dira à Sainte-Hélène, si mon père eût vécu, eh bien, je ne serais pas devenu celui que je suis devenu, j'aurais probablement été du parti libéral, etc. Enfin bref, je n'aurais pas pu apparaître sur la scène de l'histoire. C'est tout de même cruel d'écrire ça, hein, par rapport à son père, mais bon. En partie, ce n'est pas faux, parce que comme l'explique la psychanalyse, il n'a pas eu à tuer son père.
Cancer de l'estomac, 1785,
radical. Disparaît. Autre père, alors celui-là politique qui va disparaître, alors non pas physiquement, mais qui va perdre son influence autour de lui, c'est Oubab, ou comme disent les Corses, Pasquale et Paoli, avec lequel les femmes, donc les Bonaparte avaient été très proches. Quand il revient sous la Révolution, eh bien les Bonaparte à nouveau font alliance avec lui. Je simplifie, il y aura des divergences, surtout les Bonaparte n'auront pas les places qu'ils espéraient, enfin le schisme, si je puis dire, s'accentue, et effectivement les paulistes chassent les Bonaparte, et autre chance finalement, parce que Paoli disparaissant, c'est pour Napoléon la Corse qui disparaît, hein. Alors, l'historien Patrice Guénifet a ce mot un peu dur, hein, de ce fardeau, la Corse, il devait se délivrer. C'est dur, mais c'est pas faux, parce que en 1700, jusqu'à cette expulsion, les Bonaparte ont vu les deux aînés, Joseph et Napoléon, n'ont qu'une ambition, c'est la Corse. Alors, elle est louable, hein, certes, mais évidemment, mais il ne serait pas, surtout Napoléon, devenu celui qu'il est devenu s'il s'était arrêté au relief, simplement au relief insulaire. Hein. Donc, en quittant la Corse, il est à nouveau reprécipité vers la France, et ça, c'est une autre chance, finalement, dans sa vie. Autre disparition, c'est Maximilien Robespierre, parce que il est plutôt du côté des Jacobins. À ce moment-là, il est proche de son frère Augustin. Alors, intelligemment, il n'est pas forcément très impliqué dans la terreur, mais je veux dire tout de même, si le régime avait continué, il le dit lui-même d'ailleurs, hein, je risquais d'être envoyé, etc. Bon, enfin bref, il aurait pu y perdre sa tête. Hein. Là, il revient, à peine est-il revenu de Corse, quelques mois après, Robespierre chute, disparaît lui aussi, et finalement, c'est une autre chance pour lui. Et jusqu'à aussi autre rupture. Dans sa vie, en 1795, où il rompt un peu avec le clan Bonaparte, parce que jusqu'à présent, Napoléon ne pensait que Bonaparte, que pour ses frères et sœurs, pour lui, mais il fallait que tout le monde avance, que le clan avance en même temps que lui. Et suite à l'affaire avec Désiré Clary, où eh bien Joseph refuse qui par ailleurs a épousé la sœur, hein, Désirée Julie, refuse qu'il y ait un second mariage Clary Bonaparte, les Clary ne veulent pas non plus. Bref, Napoléon se brouille un peu avec Joseph, s'éloigne, et cette rupture-là est essentielle, parce qu'à ce moment-là, il va connaître l'épisode de Vendémiaire, se faire remarquer par Barras, et apparaît dans sa vie un autre personnage qui va compter, Joséphine, et un autre clan, les Beauharnais, et une autre société. Et pour une fois, pour la première fois plutôt, eh bien, il ne va plus penser Bonaparte, mais il va penser Napoléon, et devenir le personnage qu'il est. C'est si vrai qu'il se révèle en mars, avril, mai 1796 dans la campagne d'Italie, et là, il devient le personnage, pour l'époque, quasi surnaturel qu'il est devenu. Donc, et là, l'épopée est partie, et sur laquelle, évidemment, on ne va pas revenir ce soir, mais ce personnage qui s'est défait de ses peaux successives, pardon, est arrivé, et un homme nu en 1795, et Napoléon est celui qu'il va rester maintenant jusqu'à la fin.
Moi, c'est ce qui m'avait le plus impressionné quand j'avais bossé, que j'avais fait mon Napoléon là, chez Autrement. Mmh. C'était toute cette première période, et c'est ce que dit Guéni fait aussi dans son sublime Bonaparte. C'est comment on a un type qui est jeune et qui se trouve face à des situations incroyables, parce qu'il faut dire que ça change tous les 15 jours. Hein, on est dans une période de folie, et il fait les bons choix. Mmh. Il ne sait pas qui fait les bons choix. Il prend des décisions à ce moment-là, mais il fait les bons choix. Et c'est vrai que cet homme, qui est différent de celui qu'on va connaître après, quand il y a l'Empire de Napoléon, il est juste dingo. Cette période-là, moi, je la trouve absolument fascinante. Ces choix à faire sans arrêt, et c'est ce que tu dis, c'est comment il enlève ses peaux successives et bah, il trouve son chemin, il sait pas trop comment, et à la fin, il arrive à être Napoléon. Alors là, c'est par contre la figure petit peu trop écrasante.
Oui, voilà le célèbre bicorne, et le problème, c'est que pour les autres Bonaparte, la famille qui apparaît ici, les Césotes qui vous apparaissent, qui font l'objet du livre. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est pas évident d'exister à côté de quelqu'un qui, bon, ça, ils pouvaient pas le savoir, mais aujourd'hui, Napoléon Ier, dans le monde, puisque les Américains ont récemment mesuré l'audience sur Internet des personnages historiques, je vous donne le tiercé, vous le connaissez peut-être, je vais le rappeler. Le premier, c'est Jésus. Le deuxième, c'est Napoléon. Et le troisième, c'est Mahomet. Donc, il est tout de même entre un messie et un prophète. C'est tout de même une performance assez régale. Tous les autres personnages, Louis XIV, Churchill, De Gaulle, etc., sont très loin, très très loin, mondialement. Et ce personnage-là écrase. Ce bicorne va écraser l'histoire, mais aussi ses frères et sœurs, ses neveux, ses nièces, son fils, etc., etc. Parce que, je veux dire, comment être un Bonaparte à côté de lui, contre lui, enfin, finalement, ce qui est, il s'agit pas de les comparer, parce que alors même Xavier sera d'accord avec moi par rapport à Napoléon III. C'est difficile d'exister, même Napoléon III par rapport au.
Ah bah ouais. Moi c'est la galère en fait. Donc moi je bossais sur le Second Empire et Napoléon III. Et donc c'est un peu le syndrome des chevaliers paysans de l'Ac de Paladru en l'an 1000 quoi. Quand on explique sa thèse, les gens comprennent pas. Donc déjà Second Empire, Napoléon III, ça marche pas trop. Donc moi j'ai eu le droit du Troisième Empire. Où est Napoléon II? C'est le bazar. Les gens connaissent Napoléon, ça pose pas de problème. Il n'y a même pas besoin de mettre le chiffre derrière. On dit Napoléon, c'est bon. Mmh. Et Napoléon III, c'est plus compliqué. C'est qui les... Alors ça, c'est les 17 Gus du bouquin,
oui.
De la saga.
Les Bonaparte,
Gus
oui.
Gus et Desessoff.
Oui.
Et donc, c'est qui exactement, en fait?
Alors,
Bonaparte.
Oui, les Bonaparte les plus connus, les plus emblématiques. Avec Napoléon, ils sont 17. On aurait pu en compter d'autres. Hein. Il en manque sur le tableau. Mais ce sont ceux qui ont laissé des traces étonnantes, qui ont réussi à exister malgré tout. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de les comparer. Ce qui est touchant, c'est de connaître leur parcours et finalement, le chemin qu'ils ont emprunté est pour eux plus important que le résultat qu'ils ont atteint, parce que certains ont des résultats finalement pitoyables, hein, parfois misérables, certains très héroïques, d'autres aventuriers, ratés, pas ratés, mais je veux dire... je pense aller à l'Aiglon, où son parcours est, je l'appelle le maudit, qui est un parcours absolument dramatique. Hein. Il dira lui-même, ma naissance et ma mort, voilà les deux seuls événements de ma vie. Donc, je veux dire, c'est quand même terrible pour celui qui aurait dû être le nouveau César, etc. Donc, enfin, mais ils ont, ce qui est remarquable chez eux, c'est qu'ils ont essayé. Ils ont essayé, c'était peine perdue d'égaler Napoléon Ier, même parfois de s'en approcher. Celui qui s'en est le plus approché, c'est Napoléon III, évidemment. Hein. Mais c'est ce combat-là supplémentaire, parce que si c'est une chance qu'ils aient eu dans leur famille Napoléon Ier, ce totem, je répète, c'est aussi une malchance, parce que depuis tout petit, la première chose que les Bonaparte, enfin surtout des générations à partir de la seconde, dès qu'ils ouvraient les yeux, qu'est-ce qu'ils voyaient dans leur chambre? Je vous donne en mille, un buste de Napoléon Ier. Et on leur rappelait le personnage qu'il était, etc. Et comment exister par rapport à ça. D'ailleurs, un personnage... qui est le fils de Jérôme, qu'on a appelé Plomplon.
Hein, c'est le petit gros, là.
Le petit gros, voilà, qui se situe en troisième, en bas à droite. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure, rapidement. Il est un des premiers à avoir été appelé Napoléon, alors qu'il n'était pas en possibilité, enfin, il n'était pas un successeur probable. On l'a appelé Napoléon, et il était tout jeune, il avait 2-3 ans. Bon, Napoléon Ier était mort depuis un moment. Il rend des visites à Madame Mère, à Laetitia. Donc, il faut imaginer, hein, femme austère qui porte le deuil depuis 45 ans, hein, donc tout en noir, toujours, etc. Bon, personnage assez impressionnant. Et donc, il doit aller lui présenter ses hommages. Et elle lui dit: « Et toi, comment tu t'appelles ?» Et lui, pas arrivé à dire, un peu plomb. Et ça va lui rester, donc voilà.
Je veux dire, manque de bol, quoi.
Et oui, surtout, bon, c'est sa sœur Mathilde, hein, qui a entendu ça et qui va le populariser parce qu'elle n'aimait pas son frère. Surtout quand il y a eu des problèmes d'héritage et que Jérôme avait surtout tout légué à Plomplon. Et comme vous le savez actuellement, les problèmes d'héritage, hein, dans les familles. Hein.
C'est ça. Surtout quand il y a une Laetitia dans.
Oui,
dans
voilà. Quand il y a une Laetitia, c'est difficile. Ça, c'est toujours difficile. Hein.
Toujours difficile.
C'est toujours difficile.
Alors, tu fais comment? Tu nous les présentes?
Alors, on va. Alors, les frères de Napoléon, je vous les affiche les uns après les autres. Il y a Joseph, l'aîné. Alors, c'est le seul qui n'est pas né à Ajaccio, hein, de la fratrie. Il est né à Corté en 1768, quand son père était encore aux côtés de Paoli. Ce brave Joseph, l'aîné, alors qu'on a lui aussi un petit peu relégué, mais qui a été, depuis la magnifique biographie de Thierry Lenz, a repris des couleurs. Alors, si Joseph n'a pas été l'aîné politique, c'est vrai, il est resté tout de même l'aîné de la famille, celui sur lequel les frères et sœurs pouvaient compter. C'est le plus mesuré de tous. Hein, il est le plus prudent. Il a un tempérament de diplomate. Il se ressemble à Napoléon. Ils ont la même taille, 1m69. On pouvait le prendre l'un pour l'autre un peu de loin. Mais leurs caractères sont totalement différents, ce qui fait qu'ils vont s'entendre. Alors même s'il y a eu des problèmes, au moment surtout de la guerre d'Espagne. Mais dans l'ensemble, Joseph, qui avance toujours de manière mesurée, prudente, qui accumule, hein, comme sa mère, il faut savoir que c'est lui qui finira le plus riche des Bonaparte. Hein, eh bien, si l'un ou l'autre a des problèmes, Napoléon ou les autres, eh bien, ils peuvent compter sur Joseph, qui finalement est toujours là, survit toujours, et toujours dans de bonnes conditions, et qui a une certaine contenance, comme ancien roi d'Espagne et de Naples, qu'il a été aussi. Bref, ce Joseph a un parcours très intéressant, et a contribué à l'essor de son frère aussi, et c'était probablement le plus proche de Napoléon, parce que ils avaient un an de différence. On va dire que leur berceau était l'un à côté de l'autre, ça crée des liens, hein. Ils n'étaient pas jumeaux, mais tout de même, ils ont, jusqu'aux premières années de leur vie, jusqu'à l'âge environ de 10 ans pour Napoléon, ils étaient ensemble, et donc ça a créé évidemment des liens. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le suivant, qui s'appelle Lucien, né en 1775. C'est le troisième enfant, mais vous voyez l'écart, hein, 1769-1775, 6 ans. Alors, j'ai dit tout à l'heure, cette brave Laetitia, elle n'avait pas arrêté ses grossesses, mais tous les enfants nés après Napoléon, surtout des filles, qu'on prénommait Marianne, eh bien, sont morts. Et le seul qui va survivre après toute une série de morts-nés, etc., eh bien, c'est Lucien, qui sera d'ailleurs un enfant chétif, myope, malingre, mais le pauvre, je l'arrange pas, je sais, c'est pas celui que je préfère, hein, je vous le dis tout de suite, je l'ai appelé l'éphémère. Donc, Lucien, parce que bon, c'est un personnage qui va entrer en conflit avec Napoléon, on l'a appelé le rebelle aussi. C'est vrai qu'il a un caractère plus proche de celui de Napoléon, il est très ambitieux, il se serait volontiers vu à la place de son frère. Il a joué un rôle conséquent au moment du coup d'État, puisque c'est lui qui fait basculer le coup d'État, parce que c'est le tribun de la famille. Hein. Vous mettez Joseph ici, là, sur une estrade, il fait de vous des sans-culottes convertis, hein, paraît-il. Il est dans le verbe, il excelle. Dans l'administration, il excelle pas du tout. C'est pas Napoléon. Il reste 6 mois en poste, et non seulement son administration est déplorable, mais en plus, il pille. Alors, Bonaparte aussi, les autres, bon, ils sont plus loin, mais au moins, bon, je veux dire, il y a des résultats. Mais alors, lui, il pille contre l'intérêt de la France et des et de son pays en des exemples, etc., ce qui va le reléguer encore. Mais sa brouille principale, c'est parce qu'il se remarie, il perd sa première épouse, ils avaient déjà 2 enfants. Au total, Lucien aura 14 enfants, eux viables. Sa seconde épouse, donc, lui en donnera 12. Il épouse une veuve, Alexandrine de Bléchamp, qui avait épousé le banquier Jouberton. Napoléon ne la supportait pas. Napoléon voulait qu'il épouse une princesse. Il ne voudra jamais. Le schisme sera terrible. Lucien s'exilera en Italie. Madame Mère le suivra. C'est pour ça qu'elle n'est pas là au sacre. C'est pas à cause de Joséphine. C'est à cause de la brouille avec Lucien. Ils vont tenter de se raccommoder, mais je vous donne juste ce dialogue entre les deux frères. Vous savez que Napoléon avait aussi épousé une veuve, puisque Joséphine était veuve du général de Beauharnais. Et ça a donné ce dialogue-là avec Lucien de dire à son frère, « Toi aussi, tu as épousé une veuve, mais au moins la mienne n'est ni vieille ni puante. »
Elle pue un peu, Joséphine. On l'oublie. Hein. Voilà. C'est vrai, non, faut le dire. Gros problème dentaire, Joséphine.
Et oui,
regardez les tableaux, elle a toujours la bouche fermée. Hein.
Mais bon, pour se raccommoder, c'était tout de même pas. Voilà. Donc, ils se sont raccommodés aux 100 jours, ouais, effectivement.
Un peu tard.
Mais alors, c'est là aussi bizarre parce que, alors que Lucien est très proche du pape, un pape, un ennemi politique de son frère, le pape le fera prince de Canino. À peine l'a-t-il fait prince de Canino, si je puis dire, le met en vedette dans la ville éternelle, que. Quand Napoléon revient aux 100 jours, vous connaissez l'issue, c'est Waterloo, bien, il ne trouve rien de mieux que se précipiter au devant de son frère et d'essayer de renouer des liens au moment où finalement tout chancelle et c'est assez improbable. Bon, ça ne durera pas longtemps non plus, ce qui fait que quand il retournera à Rome, là, le pape Pie VII ne l'accueillera pas très favorablement, il sera finalement exilé autrement. Il faut savoir aussi qu'il avait fui Napoléon en 1810, il avait voulu se rendre aux États-Unis, lui aussi. Il va être capturé par les Anglais, il va passer 4 ans d'exil à Londres, ce qu'on ignore. Et je veux dire, les Anglais, tout contents de cette prise, et de dire, voyez, Napoléon est un tel tyran que même ses frères le fuient. Donc ça a été quand même difficile. Hein,
et alors le troisième, Louis.
Ah, Louis. Louis le torturé. Ce pauvre Louis, qu'est-ce que vous voulez, maintenant dans l'historiographie, on dit que Charles n'est pas son père et que Napoléon III n'est pas son fils. Ouais. Pour un seul homme, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, alors, on ne va pas discuter ici. Personnellement, enfin, je reviens dans le livre, je ne crois ni à la première thèse, ni à la seconde. Bon, j'estime que c'est un Bonaparte, donc par conséquent, Napoléon III aussi. Mais bon, c'est quelqu'un qui était. Alors, je vais le dire ça avec un petit sourire, parce que je suis dans la ville qu'il faut. Vous allez tout de suite comprendre. C'est que, quand il était jeune, Louis était appelé le meilleur d'entre nous. Ouais. Et il n'a pas réussi. Alors, pas de parallèle, hein, il a réussi aussi. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais, je veux dire, pour une certaine ambition, c'est-à-dire on pensait que ça allait être le premier des Bonaparte. Peut-être un président, peut-être, si vous voulez, ça a raté aussi. Donc, ne vaut mieux jamais être désigné meilleur d'entre nous si on a l'ambition suprême.
Il est père d'empereur.
Non, c'est déjà bien. Non, il est arrivé. Mais bon, c'est quelqu'un qui a des accidents, etc., qui a une santé assez dégradée. Napoléon et Joséphine lui font épouser Hortense, qu'il déteste. Alors, ça donnera effectivement trois garçons, dont Napoléon III. Lui aussi se fâchera avec Napoléon Ier parce que il le fait roi de Hollande. Les deux frères, Napoléon n'est pas content de lui, menace même d'envahir la Hollande. C'est quand même entre frères, c'est quand même pas mal parce qu'il allait lui déclarer la guerre. Alors, avant que Napoléon lui déclare la guerre, Louis s'enfuit. D'ailleurs, il disparaît pendant plusieurs mois. On ne sait même pas où il est encore aujourd'hui, où il a été. Et après, il va finir son existence en Italie, ne reverra jamais Napoléon. Et néanmoins, il se séparera d'Hortense. À quelques 2 ans avant sa mort, il réépousera une jeune fille de 18 ans. Ils auront un enfant ensemble, preuve qu'il n'était pas si malade que ça, hein, finalement. Ce brave Louis.
Mieux,
mais bon, c'est un personnage taciturne, un personnage difficile qui a laissé en Hollande une très bonne image, hein, mais assez contrasté tout de même.
Et alors le petit, et le Jérôme. Petit
Jérôme, le dernier, le Benjamin des Bonaparte, qui naît en 1784, hein, quelques mois avant la mort de son père, et que j'appelle le survivant, parce qu'il sera le seul à connaître les deux empires. Alors son problème, c'est que ben, il sera trop jeune pour le premier empire. Napoléon le fera roi de Westphalie, mais bon, il était entièrement sous tutelle. Et quand ce sera son neveu Napoléon III qui deviendra le second empereur, eh ben, il est trop vieux. Napoléon III, qui l'aime pas beaucoup, hein, sous ta gouverne, ne l'écoute pas non plus. Bon, il en fera un gouverneur des Invalides. Il essaiera de lui donner le maximum de pension parce que Jérôme est très prédateur. Lui aussi en matière financière, mais bon, c'est devient une figure tutélaire, mais enfin bon, qu'on exhibe un peu surtout, mais enfin surtout qu'il parle pas ou qui truc, voilà, donc drôle d'image. Alors c'est bizarre parce que c'est pas lui qui aurait dû survivre, hein, c'est une tête brûlée, Jérôme, hein, il s'est battu en duel, il s'est engagé dans la marine, il a été à Saint-Domingue, il aurait dû mourir la fièvre jaune, il est pas mort, il s'est rendu aux États-Unis, on y reviendra, il a épousé une américaine, il aura une descendance là-bas, alors son frère veut qu'il divorce, lui il divorcera, il épousera Catherine de Wurtemberg et ils deviendront, il aura lui aussi une descendance sur laquelle on reviendra. Enfin bon,
on reviendra, le temps passe. Pierre.
Voilà.
On reviendra dans quelques jours.
Et voilà, parce que c'est pour la suite.
Tu nous fais les sœurs, genre en un mot chaque sœur.
Alors les sœurs, Elisa, Caroline. Et Pauline, elles ne sont pas dans l'ordre. Elisa, un personnage à redécouvrir qui ressemblait beaucoup à Napoléon Ier, hein. Une administratrice hors pair, quelqu'un qu'on a un peu oublié parce que ses histoires sentimentales n'étaient pas de même nature que ses autres sœurs. Mais à redécouvrir, car grande duchesse de Toscane, elle a été exemplaire. C'est la première de la fratrie à mourir. Elle meurt en 1819 à Trieste. C'est elle qui disparaît en premier. Une femme de lettres, une femme assez intéressante. Assez différente de Caroline. Hein. Caroline, c'est alors la Paris deuxième, mais c'est la dernière des sœurs. Une ambitieuse, c'était un petit peu dans sa jeunesse la petite Cendrillon, celle qu'on mettait de côté, qui a voulu en quelque sorte une revanche, qui épouse Murat et qui va réussir enfin à devenir reine de Naples après des années d'attente, hein, insatisfaite. Et bon, une femme qui va se révéler au pouvoir. Hein, ce qui va lui créer des problèmes parce que Murat va en être jaloux. Néanmoins, cette femme d'autorité ira jusqu'au bout de son ambition, jusqu'à, puisque je pense qu'il n'y a pas de Murat dans la salle, jusqu'à trahir Napoléon, puisqu'elle va s'allier avec Murat aux Autrichiens contre son frère en 1814, ce qui va un petit peu, évidemment, la mettre hors de la famille des Bonaparte. Et elle sera, elle aussi, privée de succession.
Pierre a raison, parce que dès qu'on est avec un Murat,
oui,
on ne peut jamais dire trahir.
Non,
ils sont sympas, les voilà. Sont cool.
Voilà, mais il y a un terme qui déclenche... Voilà.
Non, la soirée se termine mal.
Voilà, donc à ce moment-là, il faut dire changement d'alliance.
Changement d'alliance.
Donc, comme là, on est un peu pressé,
voilà.
Et Pauline, bon, alors Pauline, que j'appelle la fidèle, un peu par provocation, parce que c'est elle, on lui a prêté beaucoup d'amants. C'était une des plus belles femmes de son siècle, la muse de Canova. Celle qui a été la plus proche de Napoléon, qu'on a cru d'ailleurs, même on a cru à l'inceste avec son frère, ce qui est entièrement faux, mais c'est elle qui a toujours été fidèle vis-à-vis de lui, qui ne l'a jamais trahi, qui n'a jamais rien tenté contre lui, qui a toujours essayé de l'entourer. Sa vie sentimentale, alors, elle n'a pas été si facile que ça. Elle a perdu son premier mari, Leclerc, le général Leclerc, à Saint-Domingue. Je raconte dans les livres cet épisode épouvantable. Elle sera mariée ensuite à un prince Borghese, un homme magnifique, etc. Mais les goûts et les couleurs n'aimaient pas cette femme-là. D'ailleurs, elle l'appelait, je vous fais pas un dessin, elle l'appelait mon eunuque. Voilà. Donc insatisfaite, ben, elle trouvera le plaisir ailleurs, du moins elle essaiera de le trouver, parce qu'elle était sans doute atteinte d'hystérie et cette maladie qui va la ronger et lui causer des troubles, un destin singulier, beaucoup plus touchant et beaucoup moins, on va dire, frivole qu'on a voulu bien le décrire, même si, par ailleurs, elle n'est pas exempte tout le temps de frivolité, bien entendu.
Mais elle est cool, Pauline, parce qu'elle est fidèle, comme tu dis,
ou ennemie.
Alors, on a eu les frères, les sœurs, ok, donc les Bonaparte, donc après, on a les descendants de Jérôme, j'imagine.
Alors, Alors, il y a une figure qui vient avant.
Ah, mais ouais, t'as vu Napoléon III.
Voilà, Bonaparte, je savais que Xavier venait.
Le neveu.
Voilà, le neveu. Tout de même, ou alors. Moi, je l'ai vu plutôt. Tu parlais aussi à la librairie Mola, parce que pour dire les coulisses, on a donné quelques interviews vidéo. Hein, c'est pour se monter un peu là comme ça en disant ça. Mais bon, tu parlais de pas facile qu'il soit devenu un Napoléon parce qu'il y a eu des coups d'État ratés, etc. Et lui, je dirais à l'inverse que plus il a été Bonaparte, moins il a été Napoléon au départ, plus il est devenu quelqu'un. Parce que tant qu'il a voulu singer Napoléon avec les retours de l'île d'Elbe à Boulogne, à Strasbourg, etc.
Ah, c'est énorme. 1840, il veut faire une tentative de prise de pouvoir, il prend un bateau, il déguise tous ses domestiques avec des pauvres uniformes de l'armée trafiquée. Et au moment de partir, tu en as un autour qui dit, sur le marché à Londres, trouve un aigle. Il dit, ça va faire classe de descendre de la barque à Canet, en plus un vautour déplumé, un truc pourri. Et ils arrivent à Boulogne, il descend avec son truc sur l'épaule, et là, il voit un cantonnier, quoi. Et il dit, ah, voilà, je suis ton empereur. Et l'autre, il appelle la garde, il se fait arrêter, il fait 6 ans de tôle. Au moins, c'est une affaire réglée, quoi. Non, mais t'as raison. Donc ça, c'est le début. Et après, il travaille le truc, et il devient Napoléon III, empereur, avec un régime qui marque encore aujourd'hui, parce que il a été beaucoup moqué, c'est badinguet, donc là, au milieu, on voit l'arrestation, c'est badinguet, mais enfin, c'est le premier président de la République élu au suffrage universel masculin, et surtout la fin du Second Empire. Quand on regarde les institutions, ça ressemble vachement à la Cinquième, sauf qu'il y a un empereur, mais voilà, c'est un pouvoir autoritaire, mais un régime un peu parlementaire. Et c'est vrai que ça a drôlement marqué. En plus, ça chute à cause d'une défaite à l'Allemagne et à la Prusse, en fait. Et voilà. Donc, c'est pas le peuple qui se soulève contre lui, c'est compliqué. Mais il y a encore une vraie ferveur autour de Napoléon III.
Oui, tu peux rappeler son score électoral au dernier plébiscite un an avant sa
chute. Il dit j'ai retrouvé mon chiffre, quoi. Donc, il a encore les 3/4 de la population. Plus, ils sont à combien, tu l'as précisément, toi?
Oui, c'est ça, à peu près 75%.
75%, les 3/4 de la population, on est en 1870, qui vote pour conserver le régime. Donc là, on a une figure complexe, parce qu'il disait lui-même, je suis socialiste. Et que, il dit, voilà. Et que les bonapartistes étaient fous, en l'occurrence. Donc ça, ok, donc gros personnage, mais dans les Bonapartes, j'allais dire les moins connus, parce qu'ils sont c'est aussi des...
Alors Napoléon le Petit, que je rappelle, sa postérité.
Ouais, lui, sa seule plaie, c'est d'avoir rencontré.
Alors, autre parallèle entre eux, c'est les destinées tragiques des deux Aiglons.
Ouais.
Entre le roi de Rome, le nouveau César, promis un destin exceptionnel, et qui, avec la chute de son père, sera vite emmené à Vienne, restera loin de son père, loin de sa mère, deviendra le duc de Reichstadt, élevé à la cour autrichienne, or pas de manière aussi dure qu'on l'a prétendu, mais enfin toujours est-il que cet enfant va tout de même être assez perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va néanmoins apprendre la légende impériale, lire beaucoup de livres sur son père, etc. Mais plus il va lire de livres au sujet de son père, plus il va comprendre la dimension du personnage et se dire « je suis son seul fils ». Enfin, c'est pas son seul fils vivant, mais c'est son héritier. Vais-je être à la hauteur ?
Ah, il l'a pas été.
Que faire? Donc, et de toute façon, Metternich, le chancelier autrichien, avait dit cette phrase, exclu de tous les trônes une fois pour toutes. C'est-à-dire, de toute façon, on ne l'aurait jamais fait régner. Là-dessus, une tuberculose peut-être opportune arrive. On a parlé d'empoisonnement à propos de l'Aiglon. Bon, difficile de trancher. Toujours est-il que sa mort arrange bien les affaires des Autrichiens et des monarchies européennes. Et qu'il disparaît à l'âge de 21 ans en uniforme autrichien à Schönbrunn. Et donc là, s'écroule, mais ça ouvre la voie à Napoléon III, mais à Louis-Napoléon qui deviendra Napoléon III. Mais effectivement, il disparaît sans avoir absolument rien fait. Et on peut un peu tracer le parallèle avec le fils de Napoléon III, le prince impérial.
En fait, c'est étonnant parce qu'on a deux empereurs qui tous les deux ont un gamin pendant leur règne, ce qui est peu courant. Les enfants arrivent pendant le règne et c'est le même destin, c'est-à-dire que les deux empereurs ont un seul enfant et les deux enfants meurent jeunes. Pour le prince impérial qui devient gosse beau et tout, il se fait tuer par les Zoulous sous l'uniforme britannique en 1879. Truc terrible, scène pathétique, monstrueuse. En même temps, Enfin, je sais pas, après, non, ils sont pas là, les dessins. Non, non, mais juste la scène est dingo parce qu'il fait partie, parce qu'il veut combattre, c'est un Bonaparte, donc il a que ça dans sa vie. Il va avec les Britanniques et ils vont, il y a une, enfin, pas une embuscade, des Zoulous attaquent. Et donc il est avec les Britanniques et il dit, allez, on y va. Et il se retourne et il n'y a plus personne, il est tout seul. Parce qu'un soldat, même britannique, quand il sait qu'il va perdre, il se dit, parfois, il vaut mieux faire une retraite. C'est pas honteux, mais lui il est un peu Bonaparte. Il dit bon, il est resté tout seul, aucune plaie dans le dos, hein, tout sur la face. Il s'est pas retourné, bah, il est mort. Ce qui était peut-être pas la meilleure stratégie, mais en tout cas, dans les deux cas, c'est ça. On a les deux héritiers qui meurent jeunes.
Genre, ils étaient promis un avenir radieux, ils meurent tous en terre étrangère,
sous des uniformes,
sous des uniformes étrangers.
Et ça fait pas quoi.
Et heureusement pour le prince impérial, il connaîtra pas le retour des cendres de l'Aiglon. Voulu par Hitler le 15 décembre 1940.
C'était terrible ça, parce qu'en 1940, les gens se moquaient. Ils disaient les Allemands nous prennent le charbon, ils nous ramènent les cendres.
Exactement. Donc, le pauvre Aiglon, même dans sa postérité, je veux dire, dans sa vie, tout a été raté jusqu'à ce retour des cendres, dans des conditions absolument, je veux dire, où les Français ne pensaient plus beaucoup à cela. Ouais.
Après, alors, il y a qui d'autre?
Alors, après nos Aiglons, on a...
Après, on va pas tarder. Après les Aiglons, on a les deux...
Ah, les deux les enfants de Jérôme.
Les enfants de Jérôme.
Le Plongène et la Franche. Le Plomplon, dont je parlais tout à l'heure. Donc,
et Mathilde.
Un prince jouisseur, quelqu'un qui a bien profité de la vie, qui a tous les sens du terme. Bon, qui a eu, lui, pas mal d'aventures sentimentales, qui a connu Nana, qui a connu ce qu'on appelait les mondaines, les demi-mondaines, etc. Donc... dont les cris d'amour étaient proportionnels à la liasse de billets qu'elle recevait. L'une d'entre elles, je vous fais encore pas un dessin, là, s'appelait la Grande Horizontale. Donc, bon. C'était son nom de scène, on va dire. Alors, et c'est très curieux parce qu'il va épouser Clotilde de Savoie, une grenouille de bénitier. Enfin, elle, par contre, dévote, confite, etc. On raconte que, quand ce mariage, qui est en fait une alliance dynastique avec la maison de Savoie, a été conclu, cette Clotilde de Savoie, elle est arrivée à Paris avec des litres d'eau bénite dont elle a aspergé la chambre nuptiale. Bon, ça n'a pas suffi, hein, ce coquin de Plomplon. ce couple va donner naissance à l'actuelle maison Bonaparte, et c'est par eux qu'il y a une descendance actuellement, et sa sœur Mathilde. Mathilde qui va épouser un prince russe des Midov pour des questions d'argent, qui va s'en séparer, qui va devenir Notre-Dame des Arts, elle va tenir un salon fameux où se côtoyaient Mérimée, Sainte-Beuve, Flaubert, les frères Goncourt, qui ont laissé un journal formidable et qui va créer un véritable salon. Vous la voyez ici plus âgée parce que au moment où, il faut savoir, c'est elle qui a fait la visite des Invalides, enfin du tombeau de son grand-oncle Napoléon Ier, au tsar Nicolas II et à son épouse. Ça sera d'ailleurs sa dernière sortie publique. Elle meurt en 1904 après une fracture du col du fémur. Elle disparaît. Cette figure emblématique, Mathilde, un personnage en couleur, très franche. Je l'appelais la franche, hein, parce qu'elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Hein. On lui disait toujours princesse, etc. Elle disait, oh, vous savez, hein, s'il n'y avait pas eu la révolution, moi, je vendrais des orange sur le marché d'Ajaccio, hein. Donc c'était pas faux. Deux personnages à découvrir.
Oui, oui. On la retrouve chez Proust d'ailleurs. C'est un personnage.
Personnage inattendu, Charlie l'incorruptible.
Ah, il est bon lui, Charlie.
Ah oui, Charlie, celui-là on le connaît assez peu. On le connaît beaucoup mieux aux États-Unis parce que bon, je vous l'ai dit brièvement tout à l'heure, Jérôme a épousé une Américaine, Elizabeth Patterson, à Baltimore. Il avait 20 ans. Et il essaie, quand il revient en Europe avec son épouse, il n'arrive pas à faire confirmer ce mariage par Napoléon. Elizabeth Patterson sera obligée de retourner aux États-Unis, à Baltimore, sauf qu'elle est enceinte. Et elle est enceinte, elle donnera naissance à un petit garçon qu'on va appeler Beau. Qui va être lui aussi quelqu'un en vue à Baltimore, qui se rapprochera de Napoléon III. Qui essaiera de récupérer une part de l'héritage de Jérôme, décidément on n'en sort pas. Napoléon III fera des concessions, autorisera les Patterson à porter le nom de Bonaparte, hein, Bonaparte Patterson. Ce beau aura deux fils, un premier qui servira dans l'armée impériale, plutôt assez intéressé par la France, et un second, 20 ans plus tard, Charles Joseph, qu'on va appeler Charlie, quelqu'un d'assez étonnant, un étudiant absolument brillant, et qui va fréquenter la Harvard Université pour le droit, des études de droit. Il va être si brillant même que aujourd'hui il existe un prix Charles Bonaparte qui est Harvard décerné aux étudiants méritants. C'est, je l'ai appelé l'incorruptible parce que il va vite agir et militer dans les ligues anticorruption dans une Amérique de fin du 19e siècle qui est entièrement minée par la corruption, du plus petit état jusqu'au grand, jusqu'au Capitole. Et là, il y a un grand mouvement auquel il participe. Et dans ce mouvement, il rencontre un personnage important pour l'histoire américaine, Theodore Roosevelt. Il va se lier d'amitié. Et quand Theodore Roosevelt arrive au pouvoir, devient président, non pas par élection, mais parce que le président McKinley a été assassiné bien avant John Kennedy. Étant vice-président, il devient président. Et il va appeler Charlie Bonaparte au département de la marine. Mais quelle idée, hein, Bonaparte à la marine, c'est pas toujours une bonne idée. Alors c'est pour qu'il se forme la main au gouvernement, mais bon, il sera pas forcément très très habile. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que les caricatures de l'époque déjà le mettaient en Napoléon, quoi, hein, ce cher Charlie. Mais surtout, il va devenir attorné général. Vous voyez ici sa signature, c'est-à-dire ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice à l'époque a un problème. Donc le département fédéral, hein, puisque vous connaissez l'organisation des États-Unis, le ministère de la Justice fédéral n'a pas de police. Donc, pour enquêter, il doit s'adresser aux polices locales qui sont corrompues ou aux agents du Secret Service, mais qui ne sont pas nombreux et qui s'en moquent. Comment faire ? Charlie veut créer une police. Mais comme on pense que, puisque c'est un Bonaparte Fouché, oula, une police, peut-être une police politique, oula, qu'est-ce qui se passe ? Et les parlementaires qui sont corrompus se disent, oh là là, ça c'est pour nous espionner. Donc le Congrès refuse que Charlie Bonaparte crée une police. Alors, c'est mal connaître les Bonaparte, parce que c'est son petit Brumaire à lui, enfin même grand pour les États-Unis. Et bien, il crée cette police quand même, contre le Congrès. Stupéfaction quand on découvre ça. Vous savez, aux États-Unis, il y a les enquêtes parlementaires, enfin, vous avez peut-être vu ça, etc. Donc, il y a un grand scandale. Et là, il y a une campagne de presse qui démarre, et Charlie a cet argument imparable. Pourquoi craindre la police quand on n'a rien à se reprocher ? Alors là, l'argument porte, les journaux portent, si bien que voilà, le Congrès revoit sa position et naît la police judiciaire américaine, que l'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom de FBI.
Donc un Bonaparte qui crée le FBI, il faut le rappeler, c'est rigolo.
Alors le département de justice est bon, au départ, et qui va devenir sous Edgar Hoover l'administration ensuite, bon, que l'on connaît. Autre combat moins connu de Charlie contre un personnage, alors pas beaucoup le temps de vous faire jouer, mais de qui peut-il s'agir ? Pourtant, il est extrêmement connu. Vous connaissez tous son nom. Bon, je fais un suspense rapide. Hein. Il s'agit de Rockefeller, l'homme qui a été probablement l'homme le plus riche de tous les temps. Et il se trouve que Rockefeller manait du pétrole, donc trustait entièrement l'industrie pétrolière américaine. Or, depuis 1905, les États-Unis avaient voté la loi Sherman, la loi antitrust, parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas d'économie libre s'il y avait un monopole. Et là, il y en avait un. Et Charlie Bonaparte va s'attaquer à Rockefeller. Donc le département de la justice, puisque c'était un délit fédéral, donc il a attaqué Rockefeller, 2 ans de procédure. Charlie, qui est un avocat qui a du verbe et qui sait s'y prendre, va lui-même plaider, etc., etc. Au bout de beaucoup de travail, eh bien, Rockefeller va perdre. L'empire Rockefeller sera démantelé, enfin, pas très loin, parce que s'il sera éclaté en filiales, eh bien, Rockefeller rachètera toutes les filiales avec des prête-noms. Hein. Donc bon, ça reviendra au même, mais nous avons eu Bonaparte contre Rockefeller, 1-0 et pas balle au centre.
Alors, le suivant.
Et alors, Marie la névrosée, j'ai pas le temps de beaucoup en parler, de Marie Bonaparte, qui est une descendante de Lucien, un personnage qui va compter pour la psychanalyse, qui va épouser un prince de Grèce, mais le soir de ses noces, elle va découvrir que ce prince de Grèce est homosexuel et entretient une liaison avec son propre oncle, Valdemar, ce qui va, cette jeune fille qui, par ailleurs, je le raconte dans le livre, avait déjà eu des déceptions sentimentales, elle va avoir comme ça un parcours sentimental elle aussi agité, où il y a ici Aristide Briand, dont elle fut l'amante, hein, nombreuses années. Alors ce qui est bien, c'est que Marie consigne absolument tout, hein, y compris, non, on n'est pas encore 21 heures, donc je ne peux pas trop m'étendre s'il y a des enfants dans la salle.
Mais il y en a peu, je te rassure.
Bon, alors voilà. Donc, c'est que quand je fais une conférence sur Marie Bonaparte, elle est interdite aux moins de 18 ans. Hein, donc là, je vais devoir édulcorer mon propos. Mais elle a tenu un cahier dans lequel elle a raconté tout ce qui s'est passé avec ses amants et elle avait l'habitude de les numéroter. Hein. Et Aristide Briand était le numéro 7. Hein, je vais vous dire. En même temps, elle était encore avec le numéro 6, qui était par ailleurs un docteur. Bon, mais ce qui est important à savoir de Marie, c'est que sa rencontre essentielle, c'est avec Freud. Parce que, si je puis dire, au bout du rouleau, elle va se suicider et elle rencontre le maître de la psychanalyse qui va la sauver. Ça sera l'une des psychanalyses les plus réussies de Freud, très rapidement. Marie lui confiera qu'elle faisait toujours le même rêve, hein. Eh bien qu'elle voyait, vous voyez quand même, je n'arrive pas à édulcorer avec Marie, qu'elle voyait enfant derrière ses barreaux un couple qui s'aimait devant elle. Et ce rêve revenait sans arrêt, et Freud de lui dire, vous n'avez pas rêvé, vous l'avez vécu. Or, Marie lui dit non, c'est pas possible, puisque ma mère est morte quand j'avais un an. Mon père, ce qui est vrai, Roland Bonaparte, par ailleurs, un personnage aussi à découvrir, était quelqu'un de très chaste, et que ma grand-mère, sinon dans la maison, c'est pas possible, c'est pas possible. Il lui a dit, Freud, cherchez bien. Elle s'est rappelée des serviteurs de la maison. Elle a été retrouvée, un vieux serviteur de 80 ans. Elle a pressé de questions et il a avoué. Il a avoué que c'était lui qui l'aimait dans sa chambre, sa nourrice, et que comme c'était la pièce la plus tranquille de la maison, eh bien, voilà. Et on donnait du sirop de flon à l'enfant, mais bon, manifestement, elle dormait pas. Et elle a connu ce que la psychanalyse appelle la scène primitive, et ce qui, en partie, déclenchait sa névrose. Bon. Elle va sauver Freud des griffes des nazis en 1938. Quand elle va payer sa rançon pour qu'il puisse partir, bon, il mourra un an après, hein, en 1939 à Londres, mais néanmoins, vous voyez ici sa photo, Gare de l'Est, où elle lui tient le bras, du maître de la psychanalyse, quelqu'un qui est morte au début des années 1970, près de Saint-Tropez, et qui a connu une destinée absolument exceptionnelle. Je vous conseille de revoir le téléfilm qu'on lui a consacré, et pour lequel Catherine Deneuve occupe son rôle.
Alors, dans Marie. Les personnages encore...
Alors, Louis le gaulliste, parce que là, on arrive, nous devons bientôt conclure avant les questions, à la branche actuelle des Bonaparte, donc Jérôme, hein, le survivant, naissance à Plomplon, le jouisseur, le mari de Clotilde de Savoie, donc ils vont avoir un enfant qui s'appelle le prince Victor, alors là, il y aura un nouveau schisme, parce que bon... Pour faire simple, il y en a qui vont préférer le fils au père. Enfin bon, donc le fils va devenir le prince Napoléon contre son père. Enfin bon, il y aura une brouille familiale assez importante. Mais ce prince Victor donne naissance lui-même à un autre fils, le prince Louis, Louis le gaulliste, comme je l'appelle, qui va avoir un rôle essentiel pour les Bonaparte et qui va faire les bons choix. C'est que donc en 1939, il va s'engager incognito dans l'armée française parce que depuis... Là, un peu après la chute du Second Empire, les prétendants au trône, donc lui qui était prétendant, était exclu de France, ne pouvait pas ni s'engager ni y retourner. La République va accepter qu'il sert, mais sous un faux nom. Blanchard, il va être légionnaire. Alors c'était assez drôle parce que son sergent instructeur était un fou de Napoléon et n'arrêtait pas de lui répéter si Napoléon était là, il te donnerait des coups de trique. Et lui, il devait bien rigoler parce que. Alors après, il deviendra un résistant, il sera capturé dans les Pyrénées. Hitler va vouloir envoyer un de ses sbires pour essayer de le séduire et le dire on vous relâche, mais vous m'écrivez une lettre comme quoi Napoléon soutient Hitler. Imaginez qu'on ait eu cette lettre, Napoléon soutient Hitler. Hein. Nous, historiens, Napoléon Ier, Napoléon III, on était foutus.
Ouais. Ça n'arrête pas.
Vous nous jetteriez des tomates, là, maintenant. Ouais. Donc, on était foutus. Alors, il a refusé hautement. Au contraire, il va encore plus s'engager dans la résistance. Il a failli laisser sa vie, comme le prince Murat, d'ailleurs, à la même époque. Et il va faire mieux ensuite. C'est que, donc, le voilà... au moment de la guerre. Le voilà avec ses enfants, hein, quatre enfants, dont l'aîné qui s'appelle Charles. Je vais y revenir. Mais surtout, c'est qu'il a tenu à ce qu'une grande partie de sa collection soit léguée aux musées nationaux. Ses archives soit les archives de la famille Napoléon, soit léguées aux archives nationales. C'est le fameux 400 AP qui fait le bonheur de tous les historiens qui travaillent sur la période. Donc sans lui, nous serions un petit peu embêtés. Et c'est à lui que l'on doit l'organisation actuelle des musées napoléoniens, Malmaison, Consulat Joséphine, Fontainebleau pour le Premier Empire et Compiègne pour le Second Empire, très proche de Malraux, assez proche de Gaulle. Donc c'est lui qui fait, après que les Bonaparte aient fait l'histoire, ce Louis le Gaulliste fait entrer les Bonaparte dans l'histoire de manière digne, si bien que, grâce à lui en partie, et au comte de Paris aussi, eh bien, la loi de proscription sera abrogée, il pourra revenir en France, il va épouser Alix de Foresta, qui est l'actuelle princesse de Napoléon, et comme ça donner une descendance.
Alors Charles.
Alors, celui qui lui succède, voilà, c'est pas
c'est le fils
ça sera son petit-fils Jean-Christophe, ouais. Parce que, eh bien, Louis le Gaulliste n'aimera pas que son fils Charles, eh bien, il y a 50 ans maintenant, eh bien, jette des pavés sur les CRS en mai 68.
Il est à gauche.
Voilà, il est à gauche. En plus, il va divorcer assez rapidement. Donc, bref, il y a une brouille énorme entre le fils et le père. Alors, là aussi, problème de succession, là, impériale et dynastique. Il va désigner son petit-fils, que vous voyez ici, Jean-Christophe, un jeune homme tout à fait charmant, élancé, très grand, alors que l'on voit ici, au moment du bicentenaire de la bataille de Waterloo, qui a posé de manière un beau clin d'œil à la station Waterloo de Londres, et qui aujourd'hui travaille dans la finance, hein, les nouveaux champs de bataille d'aujourd'hui. Apparemment, il gagne quelques batailles, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Et je veux dire, qui est aujourd'hui l'actuel représentant de...
Il a
31 ans. Vous le gardez pour vous, il va peut-être lui aussi, comme son arrière-grand-oncle, épouser une Habsbourg. Et descendante de Marie-Louise, donc vous voyez, on s'en parle. Alors, ce qui, pour en conclure, Napoléon Ier avait souhaité que les Bonaparte s'insèrent dans les grandes familles européennes et deviennent à l'égal des Bourbons, des Romanov, des Habsbourg, etc., Windsor, etc., une famille qui compte. Eh bien, Jean-Christophe, si je puis dire, est un concentré de toutes ces familles parce que dans son sang, eh bien, évidemment, il y a Bonaparte. Il y a aussi la maison de Savoie. Il y a par son arrière-grand-mère de la maison de Belgique, dont par contre-coup la maison anglaise, de la maison autrichienne. Bientôt, donc, il va renforcer ses liens sans doute avec la maison autrichienne, etc. Donc, en fait, dans ses veines coule quasiment tout. Il a l'ADN de toutes les dynasties, des grandes dynasties européennes qui ont formé une saga. Et donc, le seul vœu, hein, de nous, historiens, c'est que la saga des Bonaparte continue et qu'on revienne pour un tome 2.
Merci beaucoup à toi, Pierre. Merci à vous.
Merci à tous.
Merci énormément. À vous. Merci.